Bonjour, au micro Idrissa Seydoulia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Les États-Unis ont dépassé ce lundi la barre des 130 000 morts du coronavirus et encore enregistré hier un bilan journalier inquiétant des nouvelles infections à près de 55 000 cas supplémentaires selon l'Université Johns Hopkins. Par ailleurs, un groupe de 239 scientifiques internationaux alerte sur la possible transmission du coronavirus dans l'air. Ils ont appelé hier les autorités de santé de la planète et en particulier l'OMS à reconnaître que le coronavirus peut se propager dans l'air bien au-delà de 2 mètres et a recommandé par conséquent une ventilation vigoureuse des espaces publics intérieurs. En République démocratique du Congo, l'état d'urgence sanitaire a été de nouveau prolongé hier pour 15 jours, mais une partie du Parlement, qui votait pour la 6e fois cette prolongation depuis mars, a dénoncé le maintien d'une mesure risquant, je cite, « d'asphyxier le pays et l'économie en l'absence d'un plan gouvernemental de sortie de crise ». La RDC a enregistré 7432 cas, dont 182 décès. RDC toujours, près de 800 civils ont été tués par le groupe armé des ADF dans l'est du pays depuis janvier 2019, selon un rapport des Nations Unies publié hier, qui dénonce de possibles crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les forces de sécurité congolaises ont aussi commis des atteintes aux droits de l'homme, selon le même rapport, qui a parlé d'exécutions extrajudiciaires de 8 civils entre le 30 octobre 2019 et la fin du mois de janvier 2020. Au Burkina Faso, au moins 8 personnes, dont 5 militaires et le maire de Pensa, Souleymane Jabré, ont été tuées ce lundi dans une embuscade sur l'axe Barsa-Logo-Pensa dans le nord du pays. Selon des sources sécuritaires et locales, des individus armés ont attaqué un convoi du maire qui était escorté par des volontaires de défense de la patrie, corps de civils volontaires voulant participer à la lutte contre le djihadisme à Yentenga. Au Cameroun, l'information sur l'ouverture de négociations le 2 juillet avec des leaders séparatistes en vue d'un cessez-le-feu dans les deux régions anglophones n'est pas conforme à la réalité, a indiqué le porte-parole gouvernemental René Emmanuel Sadi. Vendredi, l'un des principaux chefs séparatistes, Julius Ayuktabe, avait affirmé avoir rencontré jeudi avec 8 autres leaders séparatistes emprisonnés comme lui à la prison centrale de Yaoundé, des représentants du gouvernement camerounais pour discuter d'un tel cessez-le-feu. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz est convoqué jeudi devant une commission d'enquête parlementaire créée pour faire la lumière sur ses années au pouvoir de 2008 à 2019, selon un courrier officiel consulté ce lundi par l'AFP. Cette convocation s'apparente à une manifestation supplémentaire d'un début de disgrâce sous l'actuel président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qu'Ould Abdelaziz avait lui-même désigné comme son dauphin. En Égypte, le Parlement a adopté hier une loi obligeant les militaires souhaitant se présenter aux élections présidentielles, législatives ou locales à demander l'aval d'un puissant conseil militaire dirigé par le président Abdel Fattah al-Sissi, selon la Commission nationale des médias. De facto, cette nouvelle législation limite encore plus la possibilité qu'un candidat issu de l'armée se présente contre le président Sissi, lui-même un ancien maréchal élu en 2014, puis réélu en 2018. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a dénoncé hier ce qu'il a appelé un acte orwellien de censure de la part de la Chine, après que le gouvernement de Hong Kong a ordonné aux écoles de retirer les livres qui pourraient violer la loi sur la sécurité nationale imposée la semaine dernière par Pékin. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. Restez à l'écoute. La suite de nos informations. Au Sénégal, le parti au pouvoir a annoncé hier l'exclusion de ses rangs de Moustapha Cissé Lo, député et ex-président du Parlement de la CEDEAO. Il est accusé d'avoir proféré des propos injurieux contre des cadres du parti du président Macky Sall. Le point avec Nanit Talani.
Surnommé El Pistolero, le vice-président de l'Assemblée nationale fait souvent la une des journaux pour ses écarts de langage et de comportement. Les paroles qui lui sont attribuées dans des enregistrements qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont été de trop pour l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall. La commission de discipline de l'APR a fustigé l'indécence des propos et prononcé hier dans un communiqué l'exclusion définitive de Moustapha Cissé Lo. Ces paroles sont injurieuses pour le député Farbangom et le directeur du quotidien national Le Soleil, Yatam Ngom, tous deux membres de l'APR et réputés proches du président sénégalais. Moustapha Cissé Lo ne s'est pas exprimé publiquement sur ces enregistrements dont on ignore la provenance. Compagnon de Macky Sall avant qu'il n'accède au pouvoir en 2012, M. Lo a été élu plusieurs fois député et a dirigé le Parlement de la CEDEAO de 2016 à 2020.
Au Nigeria, les médecins de l'état de Cross River, dans le sud-est du pays, sont en grève jusqu'à nouvel ordre. Ils accusent les autorités de dissimuler des cas d'infection au Covid-19, Abdourahmane Dia.
Selon les chiffres officiels du Centre national des maladies infectieuses, NCDC, cet état de plusieurs millions d'habitants est le seul du Nigeria à n'avoir recensé officiellement aucun cas de coronavirus. Le gouverneur s'était félicité d'avoir mis en place des mesures sanitaires de prévention pour expliquer cette exception. Toutefois, le personnel médical assure que des cas ont récemment été enregistrés dans un des hôpitaux de Calabar, la capitale de l'État. Le personnel soignant se dit en danger et accuse le gouvernement de Cross River d'avoir abandonné ses responsabilités de traçage et de soins aux 5 personnes contaminées. La ministre locale de la Santé, Beta Edou, a appelé les médecins et le personnel médical à reprendre leur travail, faisant valoir que cette grève tue les patients qu'elle prétend protéger. Le Nigeria compte officiellement près de 30 000 cas positifs au Covid-19, dont 645 décès. Mais le pays le plus peuplé d'Afrique a réalisé un faible nombre de tests par rapport à ses 200 millions d'habitants. Plus de 800 membres du personnel hospitalier ont contracté le virus. Le Nigeria connaît de nombreux mouvements de grève des médecins depuis le début de la pandémie pour demander plus de matériel de protection notamment.
La Cour suprême des États-Unis a jugé hier que les grands électeurs chargés de désigner le président américain dans le cadre du scrutin indirect pouvaient être sanctionnés s'il s'affranchissait du choix des citoyens. Claire Morin-Gibourg.
À 4 mois de la présidentielle, la plus haute juridiction des États-Unis a corrigé à l'unanimité de ses 9 juges une anomalie susceptible de peser sur le scrutin. Les juges ont décidé qu'un État qui oblige ses grands électeurs à respecter le vote de millions de citoyens agit en conformité avec la Constitution et avec la confiance d'une nation où nous, le peuple, gouvernons. Le président des États-Unis est élu par un collège de grands électeurs désignés par chaque État sur la base du vote des citoyens. Dans 48 des 50 États américains, le candidat arrivé en tête dans les urnes rafle toutes les voix des grands électeurs et certains États ont adopté des dispositifs pour les contraindre à respecter le vote populaire. En 2016, 5 grands électeurs sur 538 ont refusé de voter pour la démocrate Hillary Clinton, qui avait plus de voix dans leur État, et 2 se sont détournés du républicain Donald Trump. Les tribunaux ont été divisés sur la question. La Cour suprême a donc tranché sans ambiguïté. Le texte de la Constitution et l'histoire de notre nation autorisent un État à obliger ses grands électeurs à respecter le choix des électeurs pour la présidence.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En Afrique du Sud, le Trésor public déclare n'avoir aucune autre mesure pour renflouer South African Airways, car la compagnie est insolvable, et les plans de redressement n'ont pas encore été finalisés. Le gouvernement souhaite que les créanciers soutiennent un plan de restructuration de la société, mais ne lui a pas alloué de nouveaux plans de sauvetage dans son budget d'urgence la semaine dernière. Les tentatives de relance de la compagnie aérienne sont à bout de souffle. En République démocratique du Congo, les agents de santé en charge de la lutte contre le COVID-19 à Kinshasa ont lancé une grève illimitée. Ils accusent le ministère de la Santé de ne pas les payer depuis 3 mois et de leur refuser le droit de signer des contrats de travail malgré les risques auxquels ils sont exposés. Les grévistes revendiquent aussi, entre autres, le réajustement de la prime mensuelle allouée à chaque prestataire et qui varie entre 75 et 150 dollars. Terminons par le Kenya qui reprendra ses vols nationaux et internationaux le 1er août dans le cadre d'une levée progressive des mesures de lutte contre le COVID-19. Cette annonce fait suite à de nombreux appels du secteur privé kényan demandant au chef de l'État de redémarrer l'économie après 4 mois de restrictions qui ont durement affecté des secteurs clés de l'économie comme le tourisme.
À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La FIFA hausse le ton face aux problèmes qui minent le football zambien. Nous notons avec préoccupation qu'à ce jour, les procédures contre la Fédération zambienne de football sont toujours en cours devant les tribunaux zambiens. Cette situation constitue une violation totale des statuts de la Fédération zambienne de football et de la FIFA. Toute décision d'un tribunal zambien sera considérée comme une ingérence de tiers, a déclaré la FIFA, menaçant que si la situation n'est pas normalisée, dans les 10 prochains jours, elle se chargera en personne de cette affaire. La Fédération zambienne devait renouveler son comité exécutif depuis le début de l'année, mais des membres ont traduit l'instance en justice pour contester les statuts. Parmi eux, des partisans de l'ancien président Kalusha Bolia, dont la candidature a été invalidée. Ici aux États-Unis, les Milwaukee Bucks, leaders de la saison régulière du NBA, ont fermé leur centre d'entraînement par crainte d'une contagion au COVID-19. Des tests du coronavirus réalisés vendredi ont amené la franchise à prendre cette décision. Les Los Angeles Clippers, les Denver Nuggets et le Miami Heat ont aussi suspendu leurs entraînements dans leurs installations. Les seuls entraînements autorisés sont pour l'heure individuelle. Les joueurs ne pourront reprendre l'entraînement collectif qu'une fois à Orlando. La saison régulière doit reprendre le 30 juillet avec 22 équipes candidates aux playoffs qui commencent le 17 août. Toujours ici aux États-Unis, 7 joueuses de la Ligue nord-américaine de basketball féminin ont été testées positives au COVID-19. Ces 7 cas positifs ont été décelés parmi les 137 tests effectués sur des joueuses de la WNBA entre le 28 juin et le 5 juillet. Aucun nom de club ou de joueuse n'a été révélé. Hier, les basketteuses ont commencé à arriver en Floride où doit se disputer la saison. La saison 2020, qui doit commencer fin juillet, doit être composée d'une saison régulière de 22 matchs et de play-offs, a annoncé le mois dernier la commissaire de la Ligue, Cathy Engelberg. Malgré l'inquiétante hausse du nombre de cas de COVID-19 en Floride, d'autres ligues sportives nord-américaines ont prévu d'y disputer leur fin de saison à huis clos. La MLS, elle, reprend demain en mode Coupe du Monde. Le tournoi met en lice les 26 clubs de la Ligue. Elles sont réparties dans 6 groupes. Dans chaque groupe, chaque équipe jouera 3 matchs, seront qualifiés pour les 8e de finale. Les 3 premiers du groupe A, les 2 premiers des 5 autres groupes, ainsi que les 3 meilleures équipes parmi les 3e des groupes B à F et le 4e du groupe A, à compter des 8e de finale. Si un match à élimination directe se termine par un résultat nul, les équipes se départageront avec une séance de tir au but sans prolongation jouée au préalable. La finale se disputera le 11 août.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à notre dossier du jour. Au Congo-Brazzaville, la société civile exige l'évacuation sanitaire à l'étranger du général Jean-Marie Michel Mokoko, un opposant condamné à 20 ans de prison, qui aurait testé positif selon sa famille, et il refuse de se rendre au centre de traitement Albert Lienau de Brazzaville, dénonçant les mauvaises conditions de prise en charge. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Il s'agit d'une dizaine d'organisations de la société civile qui estiment que les conditions de prise en charge optimales ne sont pas réunies dans les hôpitaux de Brazzaville. Pour Joe Washington Ebina, un des leaders de la société civile, ce qu'il demande n'est pas impossible.
Le président congolais est aujourd'hui seul devant sa conscience, où il accorde l'évacuation, où évidemment il assumera les conséquences de sa décision, puisqu'il est seul à décider sur cette situation-là. Nous le demandons simplement parce que ce n'est pas un cas unique. Il y a au Congo des dignitaires, des personnes qui sortent du Congo pour aller se faire soigner. Et donc l'homme du général Mokoko, ancien chef d'état-major, mérite de surcroît autant de considération.
Ces derniers jours, en effet, la santé du général Mokoko s'est brutalement dégradée, conséquence selon ses proches des conditions de détention de cet homme de 73 ans. Il aurait même été testé positif au coronavirus. L'officier général et ses proches s'opposeraient ainsi à sa prise en charge à la clinique Albert Luyuno, un centre Covid-19 mis sur pied par le gouvernement. Trésor Nzila Kende, directeur de l'OCDH, un autre leader de la société civile.
Si les autorités congolaises pensent que impérativement il doit aller à Leyono, nous disons que ça cache quelque chose. Il a le droit de refuser et la famille a le droit de s'y opposer. Et nous savons tous que Leyono ne réunit pas les conditions nécessaires. Le plus grand hôpital du Congo, c'est le CHU de Brazzaville. Si cet hôpital éprouve suffisamment d'insuffisance de prise en charge médicale, ce n'est pas Leyono qui aujourd'hui va remplacer le CHU en termes de performance.
L'avocat Yvon-Éric Ibwanga est l'une des rares personnes à avoir visité ces derniers jours le général Mokoko. Il dit ne pas avoir plus de détails sur ses tests positifs à Covid-19.
Qu'il a subi un test seulement, je n'ai pas reçu une information sur les résultats. D'aucuns disent qu'il a été testé positif, seulement la fiabilité, l'authenticité, la véracité des résultats posent en ce moment problème. Je l'ai vu un jour avant qu'il ne soit admis à l'hôpital. Le jour où, le jeudi où il était admis à l'hôpital militaire, j'y étais, mais je n'ai pas échangé avec lui. Ce que je puis vous rappeler, c'est qu'il est bénéficiaire d'une décision rendue par le groupe de travail des Nations Unies qui demande sa libération immédiate, sans condition et avec indemnisation.
Le général Mokoko, qui avait déjà fait un malaise la semaine dernière, reste aux soins à l'hôpital militaire. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Gabon, la circulation entre les provinces est à nouveau autorisée. Une des mesures post-confinement rendues publiques le 30 juin dernier par les autorités. Toutefois, les voyageurs doivent au préalable présenter un test de négativité au Covid-19 avant tout déplacement. Reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze dans l'une des principales gares routières de Libreville, la capitale.
Les déplacements interrégionaux sont certes autorisés, mais l'on est encore bien loin de la haute saison dans les agences de voyage terrestres. Le constat de Toby, responsable du fret sur les provinces du sud du Gabon, est amer. Les clients ne se bousculent pas encore.
Le gouvernement, suite aux mesures d'assouplissement, a décidé que pour voyager, il fallait avoir un certificat qui attestait que vous êtes négatif à la Covid-19. Et donc, pour l'obtenir, c'est des complications. Voilà pourquoi, pour le moment, nous sommes bien que nous soyons ouverts. Nous n'avons pas de clients.
Le protocole sanitaire du gouvernement, imposable aux transporteurs par ces temps de la pandémie, constitue de la vie de plusieurs chauffeurs de la Nationale 1 un gros handicap pour leur activité. Mohamed Lobé fait la ligne Lambaréné, une ville située à plus de 300 km de Libreville.
Nous avions souvent des amis sur la route avec les agents de sécurité qui nous, qui nous menace aussi parfois de vouloir même nous verbaliser à cause de ça.
À la gare routière, les places à l'intérieur des rares bus en stationnement et leurs tarifs au départ de la capitale gabonaise se négocient quelle que soit la destination. Grâce Nyonda, élève en vacances, rêve de retrouver au plus vite sa famille.
La fin du confinement, c'est une libération pour moi.
Oui, oui, oui. Une libération parce qu'il voulait voyager depuis longtemps.
Une liberté de mouvement appréciée par tous ceux qui souhaitaient l'allègement des restrictions liées au confinement. Edgar Mayumbo sort d'une maladie et veut aller se reposer loin de Libreville au milieu des siens.
Nous sommes déjà légèrement bien. Oui, oui. Je préfère aller les rendre visite parce que ça fait longtemps qu'ils m'ont vu.
Les conditions de transport impliquent également le respect des distances entre passagers à bord d'un véhicule. Le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, SILTEG en abrégé, est en campagne de sensibilisation auprès de ses adhérents. Pour Jean-Robert Meunier, président du SILTEG, l'observation des règles de précaution sanitaire est non négociable.
Il ne s'agit pas de mettre trois personnes derrière parce qu'il faut respecter la distance de précaution et de sécurité. Donc nous passons de 8 à 9 passagers. Nous ajoutons simplement un passager devant.
Selon le gouvernement gabonais, les transporteurs doivent présenter à chaque embarquement, lorsque requis, un plan de répartition des sièges permettant aux autorités de régulation du transport routier, ferroviaire ou maritime de s'assurer du respect des mesures de protection des passagers. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la relance du tourisme 6 mois après le début de la pandémie de Covid-19. L'Union africaine a indiqué la semaine dernière que le continent avait perdu 55 milliards de dollars en revenus touristiques alors que le secteur représente 10% du PIB et fournit plus de 24 millions d'emplois. La reprise annoncée des vols internationaux par plusieurs pays aidera-t-elle à la relance du secteur? Comment assurer une reprise des activités touristiques en minimisant les risques sanitaires? Nous ferons le point avec nos invités ce jeudi 9 juillet 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En Éthiopie, la semaine dernière a connu des violences qui ont fait 166 morts et causé de nombreuses arrestations. Ces violences ont été déclenchées par le meurtre du chanteur Achalu Hundessa, porte-drapeau de l'ethnie Oromo, abattu par balle dans la soirée du 29 juin à Addis Abeba. Eric Manirakiza a joint la directrice de Human Rights Watch, chargée de la Corne de l'Afrique, Laetitia Bader.
Ce n'est pas la première fois qu'on voit des cycles et de manifestations dont certaines sont devenues très violentes, mais aussi de violences intercommunautaires au cours des derniers 18 mois en Éthiopie. On parle en fait maintenant de cycles de violence et non seulement dans la région d'Oromia. Donc, on a déjà un contexte qui est très volatile, où il y a eu à plusieurs reprises des incidents qui ont provoqué et manifestations et violences. Et on a aussi eu un gouvernement qui, au début, a pris des mesures très positives pour justement ouvrir l'espace civil et politique, en relâchant les détenus politiques, en réformant des lois qui avaient été très problématiques, qui avaient été utilisées à maintes reprises contre les journalistes, contre les dissidents politiques, mais qui, depuis, je dirais, 18 mois en particulier, recommence à prendre des mesures qui sont contre-productives.
Quelles sont ces mesures, par exemple, qui sont contre-productives?
Donc, alors déjà, on a vu au niveau législatif, on a vu le gouvernement qui a passé une loi sur le discours de la haine qui est très problématique, qui n'est pas du tout au standard des normes internationales sur ces questions. On a vu le gouvernement aussi déployer ce qui est en fait des états d'urgence dans plusieurs régions du pays et notamment dans différentes parties de la zone d'Oromia et au sein de ces états d'urgence, en fait, où c'est l'armée qui est en charge. On a vu aussi des abus assez significatifs contre la population civile. Donc ça a lieu une fois de plus dans des contextes très compliqués. Il y a des groupes rebelles qui se sont réarmés. Il n'y a pas d'internet en ce moment, mais c'est pas la première fois non plus que le gouvernement utilise des mesures très fortes pour restreindre la communication, notamment en coupant l'internet.
Mais le Premier ministre actuel est issu de la majorité ethnique des Oromos. Comment expliquer cette flambée de violence?
Je pense que c'est bien sûr compliqué. Je pense que ce n'est pas seulement une question de qui est au pouvoir, c'est bien sûr une question de résoudre des tensions, résoudre des questions de marginalisation qui durent depuis des décennies. Et c'est pas seulement, bien sûr, la population Oromo qui a souffert due à une main forte du gouvernement central. C'est aussi beaucoup de différentes communautés dans le pays. Je pense qu'il y a aussi eu une tendance au sein du bureau du Premier ministre de prendre des décisions. Alors, par exemple, récemment, la décision de ne pas tenir les élections en août comme elles devaient avoir lieu, sans vraiment communiquer, discuter avec les partis d'opposition, avec la société civile. Donc je pense qu'il y a aussi une perception et une réalité d'un gouvernement qui n'est pas toujours très ouvert et pas toujours très transparent non plus.
Laetitia Bader, directrice à Human Rights Watch pour la Corne de l'Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis connaissent une augmentation spectaculaire du nombre d'infections au nouveau coronavirus. La Floride a enregistré 11 458 nouveaux cas pendant la fête nationale du 4 juillet. Les maires des villes américaines aux prises avec des hôpitaux surchargés tirent la sonnette d'alarme. Ken Farabo de la VOA fait le point dans ce reportage, repris ici par Lionel Gahima.
L'heure est à l'inquiétude ici aux États-Unis. Le pays enregistre depuis plus d'une semaine des nombres d'infections records. Kate Gallego, la maire de la ville de Phoenix dans l'Arizona, plaide pour un reconfinement.
Nous avions des boîtes de nuit bondées, offrant du champagne gratuit et pas de masque. Nos 20 à 44 ans, qui sont de ma propre génération, ont vraiment mené l'explosion de nouveaux cas et nous avons eu une telle résurgence à ce niveau. Nous avons vu des gens se rendre à de grandes réunions familiales et infecter tous les membres de leur famille. Nous sommes en crise pour les tests.
Francis Suarez, le maire de Miami en Floride, est lui aussi confronté à une vague de nouveaux cas de COVID-19.
Il ne fait aucun doute que lorsque nous avons rouvert, les gens ont commencé à socialiser comme si le virus n'existait pas.
Pourtant, le risque était là le 4 juillet, jour de la fête nationale. Dans certaines régions, les gens ont pris d'assaut les plages. Dans d'autres, les foules se sont rassemblées pour regarder les feux d'artifice, y compris à Washington DC, où le président Donald Trump a minimisé la menace du coronavirus qui a tué plus de 130 000 Américains.
But now we have tested almost.
Nous avons testé près de 40 millions de personnes.
By so doing, we show cases.
Ces tests ont montré que 99% des cas sont totalement inoffensifs.
Are totally harmless.
Le président a également évoqué l'urgence de trouver un vaccin.
We are unleashing our nation.
Nous comptons sur le génie scientifique de notre pays et probablement nous aurons une solution thérapeutique et ou vaccinale bien avant la fin de l'année.
Long before the end of the year.
Mais l'administrateur de la FDA, la puissante agence de contrôle des médicaments et de la nourriture, résiste à l'idée de fixer une telle date.
Je ne peux pas prédire quand un vaccin sera disponible, mais nous assistons à une vitesse sans précédent pour le développement d'un vaccin.
Il a également mis l'accent sur les mesures pour freiner la propagation du coronavirus.
Ce que je dirais au peuple américain, c'est de suivre les directives du CDC, les protocoles des gouvernements locaux et des États. Portez un masque si vous ne pouvez pas vous éloigner socialement. Désinfectez-vous les mains et protégez les plus vulnérables. Voilà comment nous allons nous en sortir.
Les États-Unis sont actuellement le pays le plus touché au monde par la pandémie, avec près de 2,8 millions de cas et quelques 130 000 morts.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA.